Alors, vous avez la performance est très rationnelle. C'est une des plus, à mon sens, les plus cohérentes peut-être de l'ensemble des 10. Dans un premier temps, donc, vous avez deux acteurs qui distribuent d'une façon très régulière 20 carrés de tissu numéroté sur le sol pour réaliser une espèce de grand rectangle. J'y reviendrai. Puis vous avez donc le chorégraphe équipé de cette espèce de machinerie qui permet donc de capter les différentes fréquences électriques émises par son corps, donc à partir d'électrodes. Et puis, à un moment donné, ce chorégraphe, enfin Alex Hay, s'assoit. Il est face à une caméra vidéo qui diffuse en circuit fermé donc sa propre image sur l'écran qui est derrière, donc où on peut constater la relation directe qu'il y a entre certains mouvements très, très petits, très infimes de son corps, comme par exemple le fait de fermer ou d'ouvrir les yeux, et les sons émis dans l'espace. C'est-à-dire chaque fois qu'il cligne des yeux, un type de son particulier se répercute dans l'espace. Et puis, pendant qu'on le voit faire ça, donc les deux acteurs remballent en quelque sorte les 20 carrés qui sont les 20 carrés numérotés étalés sur le sol. Ces 20 carrés numérotés, là aussi, à mon sens, font penser, enfin, on peut faire toutes sortes d'analogies, mais on peut penser évidemment à des cartes de microprocesseurs, à cette espèce d'idée de la machine, si vous voulez, une espèce de figuration visuelle et schématique en quelque sorte de la construction d'une carte mère, hein, de quelque chose comme un dispositif électronique de base, disons. Voilà, là on voit donc à l'époque évidemment la technologie de la vidéo est toute récente, donc le fait de pouvoir projeter en direct sa propre image à travers un écran vidéo, c'est une prouesse technologique. Donc il y a deux aspects, il y a cet aspect vidéo-filmage, il y a aussi cet aspect donc amplification des sons imperceptibles. Deborah Hay est également une chorégraphe issue du même groupe de danseurs. On voit ici son diagramme. Il est découpé en quatre zones indépendantes les unes des autres. Celle qui concerne le son, la lumière, le mouvement et les voix qui sont impliquées pendant toute la performance. Le point commun, ce qui fait le corps du projet, c'est les systèmes de commande à distance. Ici, vous avez huit acteurs assis en rang d'oignon sur le bord de la scène, en noir, et ces acteurs sont équipés d'une télécommande, hein, et ces télécommandes permettent d'actionner notamment cette petite plateforme que vous voyez ici, qui sont donc téléguidées et sur lesquelles sont installés ou pas des chorégraphes qui apparaissent donc de ce fait-là comme des points véritablement dans l'espace. Une comparaison que je pourrais faire, je n'ai pas d'image, mais c'est à cette époque-là, certaines sculptures de Carl André, notamment les scatterpieces, les sculptures dispersées, de petits blocs de briques, par exemple, qui sont dispersés dans l'espace. En tout cas, c'est cette idée que, donc c'est le projet de la chorégraphe, réaliser une chorégraphie où les danseurs sont totalement autonomes, ne se touchent pas, et donnent l'impression de marcher dans la rue de façon indépendante les uns des autres. Les costumes sont blancs fluorescents. La musique n'est pas une musique, c'est le son, un son, disons, bruitiste et électronique. Donc il y a une sorte de jury, comme vous voyez sur le bord de la scène, qui ressemble à une sorte de tribunal, qu'on a comparé parfois avec une sorte de tribunal qui accentue le côté déshumanisé, le côté martial, le côté distancié de la pièce. Bon, et moi je dirais que si on devait caractériser donc cette pièce, ce dont il est question, c'est de l'espace. Qu'est-ce qu'un espace? Comment ça se délimite? Qu'est-ce qu'une scène? Et de ce fait-là, on peut dire que c'est un anti-théâtre, en fait un théâtre de non-action, un théâtre sans expression, et plutôt ce que j'appellerais un théâtre d'espace. Ce qui compte, c'est cette espèce de rapprochement d'éloignement des corps les uns par rapport aux autres, qui en quelque sorte transforme de façon élastique, forme et déforme l'espace sans s'arrêter, et finalement donne forme à cette idée de qu'est-ce qu'un espace, qu'est-ce que finalement une configuration spatiale. Le son fonctionne, le son qui est sans limite spatiale par définition, qui transgresse toute limite, fonctionne comme une espèce d'intensificateur. C'est ce qui permet finalement de focaliser l'attention sur un moment, de la même manière que la lumière, d'ailleurs, qui peut être extrêmement éblouissante ou au contraire extrêmement noire, comme c'est le cas dans cette image très forcément un peu difficile à prendre. Voilà, mais ce qui fait la caractéristique technologique de cette pièce, c'est véritablement le système télécommandé à distance de ces plateformes qui bougent toutes seules de façon aléatoire en fonction donc des signaux reçus par ces télécommandes guidées par les 8 acteurs qui sont sur le bord de la scène. Donc des corps points, des mouvements de corps tels qu'ils constituent des points dans l'espace qui donnent forme à un espace qui en quelque sorte fonctionne comme une espèce de matière extensible vide qui se rétracte ou au contraire s'élargit. Alors la pièce qu'on a qu'on dit emblématique de ces 9 soirées, c'est celle de Robert Rauschenberg, Open Score. Open Score, ça fait penser au titre du livre de Umberto Eco, L'œuvre ouverte, à peu près, je ne me souviens plus de l'année de parution, mais je crois que c'est 67. Voilà le diagramme là aussi. Robert Rauschenberg, c'est la personne clé, comme je le disais en introduction, des Nine Links. C'est une des personnes avec Billy Clover qui est à l'origine de cet événement. Il est aussi le fondateur de ce qui va prolonger cette expérience sous la forme de ce groupe qui va s'appeler Experiments in Art and Technology, EAT, donc qui va être en quelque sorte la structure opérationnelle qui va permettre à l'avenir, pendant plusieurs années, d'autres expériences du même type entre art et technologie, qui va permettre de rapprocher des artistes et des ingénieurs. Il commence en quelque sorte sa longue carrière en 1952 au Black Mountain College. Le Black Mountain College, comme vous le savez, est cette espèce d'école du Bauhaus transposée aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle vont se retrouver finalement tout le milieu artistique américain, et notamment John Cage, avec lequel il collabore une première fois, en 52 donc, pour réaliser un événement où il montrera pendant la performance ces fameuses white paintings, donc ces peintures, ces monochromes blancs, suspendus au-dessus de la scène, sur lesquels vont se projeter des ombres. Et c'est ce dispositif, on va le retrouver ici dans l'Open Score, sous la forme de ce dispositif des 3 écrans qui surplombent ce court de tennis. En fait, l'Armory Show était utilisé normalement comme un lieu sportif, comme un lieu d'entraînement pour le tennis. Donc, en fait, il reprend les caractéristiques de lieu dans sa pièce, dans la première partie de sa pièce. Donc un jeu de tennis entre deux joueurs, avec les deux raquettes amplifiées qui font que le son des balles résonne dans tout l'espace, et simultanément une lampe à chaque fois de cet espace s'éteint. Donc progressivement, au fur et à mesure que la partie se déroule, l'espace devient totalement noir, et une fois qu'il est totalement noir, quelque chose s'allume, cet écran, sur lequel viennent apparaître des espèces de figures floues qui se précisent petit à petit, et en fait il s'agira d'un grand nombre, en fait il y en a 500 figurants auxquels Rauschenberg propose un certain nombre d'actions très simples qui correspondent d'ailleurs à des actions qui pourraient tout à fait être celles utilisées dans le contexte de des chorégraphies de la Johnson Dance. Il était d'ailleurs très lié à cette époque-là aux membres de la Johnson. Il est lui-même chorégraphe à ce moment-là pour la Johnson à plusieurs reprises. Et donc cet écran montre de façon assez mystérieuse, grâce à un système infrarouge, des gens dont on ne sait pas où ils sont dans l'espace, en train de performer des gestes simples, comme ceux que vous avez décrits dans cette liste, toucher quelqu'un qui ne vous touche pas, etc. Et on s'aperçoit à la fin de la représentation que ces personnes sont tout simplement au bas de l'écran, et on ne pouvait absolument pas les voir dans le noir total filmé à travers ces caméras infrarouges. La dernière partie est tout simplement une sorte de coda où une personne emballée, enveloppée dans un tissu est transportée d'un espace à un autre en train de chanter une chanson traditionnelle italienne. Voilà, donc c'est Robert Rauschenberg. David Tudor est un... j'ai pas dit d'un point de vue technique, si vous voulez. Donc il y a deux choses fondamentales. C'est la relation, c'est le système de commande à distance des lumières par le son. Donc le fait que le bruit des balles sur les raquettes enclenche ou déclenche le fait d'éteindre les lumières, donc ce lien de cause à effet entre son et lumière, et d'autre part donc l'utilisation de ce type de filmage par infrarouge qui était uniquement utilisé dans la technologie militaire à ce moment-là. Le diagramme montre un certain nombre d'outils caractéristiques de Navi Evening, les commutateurs à tambour, des relais, des encodeurs, des décodeurs, bref, tout un système technologique nécessaire à cette traduction du son en lumière et au déclenchement de ces différentes actions. Alors David Tudor, au moment des Nine Evenings, est surtout connu en tant que pianiste, interprète. Il est notamment un des interprètes favoris de John Cage, avec qui il collabore depuis le début des années 50. Il commence un parcours de compositeur en 1964, donc juste avant les Nine Evenings. Il est proche de Maurizio Kagel et il utilise donc depuis quelques années le bandoneon, donc cette espèce d'instrument de musique qui est proche de l'accordéon. Le projet consiste à coupler donc cet instrument de musique avec un dispositif électronique et par ailleurs un système de traduction là aussi du son en image. Donc c'est pas cette fois-ci du son qui déclenche le fait d'éteindre ou d'allumer des lumières, mais le fait de véritablement une traduction visuelle sous la forme, on va voir, d'oscillateurs, en fait, qui produisent en quelque sorte des effets de lumière sur des écrans. Alors, d'un point de vue technique, le diagramme montre quatre micros qui captent le son du bandoneon joué par Tudor. Cette source unique permet de contrôler l'éclairage, les images vidéo, les sculptures sonores, ainsi que les sons diffusés spatialisés par les 12 haut-parleurs répartis dans l'espace de l'harmonie. Donc ces sons sont traités en direct et modifiés par toute une série d'artefacts électroniques. Voilà, vous voyez ici jouer de son instrument. Et ce qui véritablement fait la particularité de cette pièce, c'est ces espèces de sculptures contrôlées à distance, qui sont donc téléguidées également, et qui sont des espèces de radars, des capteurs radars, qui font évoluer le son dans l'espace en créant toutes sortes d'interférences les unes par rapport aux autres, et donc en créant une espèce de musique aléatoire. Donc il y en a différents types, et c'est pour ça que finalement, je pense, et ça c'est une petite réflexion que je fais par rapport à l'exposition, si on voulait véritablement montrer d'une façon, je dirais, conforme, à mon avis, ces pièces, il faudrait les montrer en reproduisant dans l'espace d'exposition l'ensemble de la répartition des haut-parleurs dans l'espace de l'harmonie, en tout cas une disposition proche, de telle sorte qu'on puisse avoir une véritable idée, si vous voulez, de cette expérience de spatialisation du son qui est vraiment au cœur de ces dispositifs immersifs que constituent ces performances. Je veux dire que la dimension sonore est évidemment omniprésente dans tous ces projets et constitue un élément clé pour constituer des équivalents d'enveloppes. Tout à l'heure, on a vu avec Paxton une enveloppe littérale fabriquée de polyéthylène, une enveloppe en plastique gonflé, mais on peut considérer en quelque sorte que le son, véritablement, cette spatialisation du son dans les différentes pièces, et spécialement évidemment dans les pièces réalisées par les compositeurs, David Tudor et John Cage, réalise également des espèces de formes d'enveloppe, des enveloppes immatérielles qui sont liées donc à cette spatialisation aléatoire du son. Donc je pense que si on voulait être vraiment fidèle à la philosophie, si vous voulez, de ces projets, il faudrait véritablement essayer de reconstituer avec tout simplement le travail d'un ingénieur du son la dissociation des différentes pistes sonores impliquées dans ces projets et essayer de les répartir en quelque sorte dans l'espace d'exposition. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est aussi ici que vous avez une analogie qui est faite entre le corps et les objets sous la forme de ces sculptures mouvantes, une chose qu'on va retrouver notamment chez Lucinda Child, qui est elle une vraie chorégraphe. Si vous voulez, là, il y a une sorte de transposition qui s'opère entre la dimension, l'intention sonore, on peut dire, et l'intention chorégraphique. C'est au départ un projet de composition, mais c'est un projet de composition qui évolue, en quelque sorte, vers un projet véritablement, on pourrait dire, quasi chorégraphique, du fait de ce déplacement, de cette espèce de mouvement aléatoire que produisent ces sculptures sonores dans l'espace. Et donc, c'est plus des corps, mais des objets, et on retrouve là, dans cette relation corps-objet, un statement fondamental, une caractéristique fondamentale de la Johnson et de la post-modernance de manière générale, et donc une caractéristique générale qui va être au fondement même de ce qui va constituer les prémices du minimalisme. Vous savez qu'un geste fondamental de l'art minimal, ça va être cette fameuse colonne de Robert Morris qui s'appelle précisément Colonne, dans laquelle lui-même était inséré et qui va à un moment donné passer de la verticale à l'horizontale en tombant sur le sol d'une scène de théâtre. Et bien, si vous voulez, il y a ce passage progressif du corps réel du danseur à l'objet corps, si vous voulez, qui est fondamental dans tout ce passage de la danse au minimalisme, mais je dirais d'une manière plus générale de la danse ou en tout cas du corps à ce qui va se jouer dans ces performances. Il y a quelque chose, si vous voulez, comme une matérialisation, une chosification, une objectivation en quelque sorte des corps qui est essentielle et qui renvoie complètement à cette idée de, de, de la machine, en fait, hein, et du corps robot. Hein. On va voir dans la pièce tout à l'heure de Fallström cette analogie entre, entre les humains et les robots. Hein. Eh bien, je veux dire que voilà, il y a ce mouvement vers un corps robotisé, vers un corps machine, un corps objet qui est sous-jacent, si vous voulez, et dont on voit ici une sorte de prémisse. En fait, ça. Une combinaison d'éléments mi-vivants, mi-machiniques qui nous parle d'un monde post-humain. L'ambiance sonore, d'ailleurs, post-harmonique, si vous voulez, de ces performances, renvoie également complètement à cet univers post-humain, hein, cet univers machinique, cet univers déshumanisé qui caractérise, disons, le monde de la machine, ou en tout cas la représentation qu'on peut se faire, et la crainte peut-être aussi qu'on peut avoir d'un monde gouverné par la machine. Alors, une chose notable sur laquelle je voudrais insister, c'est la notion d'image. Hein. C'est l'extension, en quelque sorte, que la notion d'image prend à travers ses performances audiovisuelles. Hein. Je veux dire qu'il est très difficile d'employer le terme de spectacle. Le terme de spectacle, à mon avis, c'est presque impropre pour caractériser ces performances, parce que tant il n'y a pas véritablement, il n'y a ni continuité narrative, ni véritablement composition au sens propre. Hein. Il y a plutôt une espèce d'univers saturé, hein, densifié au maximum, et on a du mal à disons, identifier une dimension, à proprement parler, théâtrale ou même chorégraphique au sens strict du terme. Et on est vraiment par-delà, en quelque sorte, harmonie ou disharmonie, et rien n'est réellement fixé, tout semble improvisé, et rien n'est vraiment duplicable. Donc, par contre, il y a constamment, si vous voulez, des événements ou des micro-événements, des percepts, des impressions sensibles, en quelque sorte, qui nous sont soumises. Hein. Et dans le cadre, je m'aperçois que j'en ai pas mis dans les images de cette performance, mais je vous disais qu'il y avait l'utilisation, la transformation du son en images avec des oscillateurs. On en verra des images dans d'autres performances, et notamment celle de Lucinda Child. Il y a, si vous voulez, cette idée, je crois, complètement fondamentale d'une sorte de mise au même niveau, d'égalisation, si vous voulez, des différentes impressions sensibles qui nous sont données, qu'elles soient d'origine sonore, d'origine visuelle, qu'elles soient liées au mouvement, qu'elles soient liées à la lumière, etc. Finalement, chaque micro-événement, chaque chose qui se passe, si vous voulez, n'est pas véritablement un événement esthétique en soi. Je veux dire, on ne peut pas le considérer comme facteur, si vous voulez, d'une expérience esthétique en soi, mais elle est véritablement productrice d'une impression sensible. Et cette impression sensible, en quelque sorte, elle fonctionne comme une extension, à mon sens, de la notion d'image. C'est une sorte de concept élargi de l'image. Et il faut bien se rendre compte qu'on est en plein débat à ce moment-là sur ce qu'on appelle l'expanded cinéma, l'expanded tube, en fait. Hein. La question de l'élargissement de l'expérience esthétique est au cœur, en quelque sorte, des pratiques artistiques de ce moment-là aux États-Unis. Et je pense que c'est une des caractéristiques majeures de ces 10 performances que de, en quelque sorte, réfléchir et proposer une expérience de l'image qui déborde le cadre strictement visuel de l'image, si vous voulez, en étendant la notion d'image à la notion, on pourrait dire, d'impression sensible ou de percept, hein, à des effets de projection de toute nature, hein, d'ombre, de lumière, de son, etc., qui déborde au sens strict la question de l'image. Je trouve ça intéressant de le noter à partir d'un projet qui, a priori, est un projet d'un compositeur, hein, donc d'un musicien ou de quelqu'un qui travaille dans le champ sonore. Hein. en quelque sorte que c'est une, je l'ai dit en, rapidement en introduction tout à l'heure, pour John Cage avec Variation 5, c'était déjà un élément fondamental pour lui de penser son projet comme une performance audiovisuelle, donc pas seulement comme uniquement sonore, mais également visuelle. Eh bien, je pense que Tudor, dans sa performance, reprend à son compte cette dimension audiovisuelle et cherche à donner une extension visuelle du son et une extension sonore de l'image, on pourrait dire en tout cas une extension sonore des différentes actions visualisables de la performance. D'ailleurs, les écrans on en a déjà vu quelques exemples, mais sont permanents tout au long de ces performances. Il y a toutes sortes d'écrans, on va le voir dans la performance de John Cage, ils sont là pour capter des ombres, justement les ombres des musiciens, pas des musiciens, des acteurs en train d'utiliser les différents instruments qui leur sont mis à disposition. Chez Steve Paxton, on l'a vu, ils sont à l'intérieur de cette espèce de tunnel de polyuréthène. Ils sont omniprésents dans la performance de Whitman, puisqu'il y a 13 films en simultané qui sont montrés. Il y a toutes sortes de caméras télévision assez rares à l'époque qui sont également montrées. Ils sont présents dans la performance de l'ex-Hay, etc. Ils sont présents dans la performance de Rochenberg. Enfin, ils sont omniprésents. La question de la présence, si vous voulez, de l'écran, donc du support à la projection, est véritablement une des caractéristiques majeures en fait de ces dispositifs. Donc, c'est pas seulement des dispositifs, scéniques. C'est pas seulement des dispositifs sonores. C'est aussi et pour une large part des dispositifs visuels, disons. Et on pourrait vraiment véritablement les caractériser comme des dispositifs audiovisuels. Je crois que c'est véritablement ce qui les synthétise le mieux. On n'a pas affaire à une image plus un son, on n'a pas affaire à simplement cette dimension, si vous voulez, de cinématographique au sens d'une image plus un son, mais on a véritablement affaire à une image qui se prolonge en quelque sorte dans toutes les dimensions, qui ne s'ajoute pas, mais qui se coagule en quelque sorte, et véritablement vient occuper, vient saturer tout l'espace. Alors, la sixième performance est celle de Ivan Reiner, donc Carriage Discreteness, donc ces choses qui sont portées dans tout l'espace. On la voit ici avec un talkie-walkie, puisque c'est une des caractéristiques de cette pièce que de diriger les différents danseurs, disons, ou acteurs, ou les différents performeurs par le biais d'un talkie-walkie amplifié qui donne des ordres, en quelque sorte, aux différents danseurs pour qu'ils réalisent un certain nombre d'actions. Vous avez ici une matérialisation quasiment, tout à fait caractéristique de ce qui fait, l'espace scénique typique de la Johnson, c'est-à-dire des éléments sculpturaux qui ressemblent très fortement à des éléments de sculpture minimaliste, notamment ceux de Robert Morris, qui sont mis en paquet comme ça sur la scène. C'est l'une des chorégraphes les plus importantes de ce groupe, du Johnson Dance Theater, sa fondatrice, le fondateur de cette compagnie, le fondateur de ce théâtre, qui donc avait élu domicile dans une église du bas de Manhattan. Et donc, le rapport corps-objet est, comme je disais, donc, un des éléments clés de l'ensemble des chorégraphies proposées par ce groupe, puisqu'elle part du postulat, en quelque sorte, que le mouvement peut être transformé, peut être inventé même, dans le rapport, d'obstacle qu'il rencontre avec des objets spécifiques. La taille, le poids des objets produit des effets sur le corps, produit des effets de transformation du mouvement du fait des caractéristiques mêmes de l'objet, Et c'est cette interaction entre l'objet et le corps qui produit un certain type de mouvement, qui génère un certain type de mouvement, qui est au cœur de qui est au cœur de des postulats en quelque sorte de ce type de chorégraphie. Le fait d'être animé par quelque chose plutôt que par soi-même. Le mélange entre danseurs professionnels et amateurs est une caractéristique récurrente. Le fait d'utiliser des micros pour amplifier des sons, comme je disais tout à l'heure, donc notamment de la respiration, des battements du cœur, est aussi une caractéristique. Et d'une manière générale, la danse se rapproche de toutes les activités quotidiennes impliquant, disons, le déplacement et la mobilité du corps. C'est une manière d'amplifier des simples mouvements d'une activité quelconque. La danse est définie comme une amplification déjà, une manière de souligner des mouvements qui autrement disparaissent en quelque sorte dans l'activité quotidienne. Les deux principaux inspirateurs de ce mouvement sont bien sûr Merce Cunningham pour une part, mais pour une autre part, et sans doute très très importante, une danseuse qui a été, une chorégraphe qui a été célébrée ici à Lyon il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Anne Alprin, et qui a joué un rôle absolument déterminant dans la genèse en quelque sorte de ce groupe au tout début des années 60. Alors, le projet que propose là Yvonne Reiner consiste, et c'est ce que montre le diagramme que je n'ai pas d'ailleurs ici, je ne sais pas pourquoi, le fait de montrer deux séries parallèles d'événements. Une première série d'événements qui est entièrement programmée par les machines et qui concerne tous les événements, hors acteur en quelque sorte. Donc les projections, le déclenchement des différentes sources sonores, les variations d'éclairage, les différentes projections de diapositives, d'extraits de films, etc. Même la chute de certains objets. Et puis par ailleurs, donc, parallèlement à cette première série qui est complètement indépendante de l'action des danseurs sur la scène, vous avez des danseurs, des acteurs, des performeurs qui sont dirigés, donc, comme je le disais tout à l'heure, par Tokiwoki, par la chorégraphe, placée quelque part sur une plateforme qui leur demande d'exécuter un certain nombre d'actions en se saisissant des objets pour les transporter d'un endroit à un autre de la scène. Donc, en quelque sorte, deux séries en parallèle, c'est ça qui caractérise le plus, en fait, cette pièce, qui sont là encore une fois totalement indépendantes les unes des autres et qui fonctionnent pourtant sur le même espace scénique.